En quête de cinéma, on est à Paris, on est avec Fadel, Nader et Saad Gilani, cinéaste, avec qui nous avons passé une heure et demie à discuter de cinéma au sens large. La première partie de l'émission va parler de son cinéma, et la deuxième partie de l'émission, on va parler plutôt de Bidoun 4, son dernier film qui vient de tourner. Fadel est là avec nous, musicien de oud et aussi acteur principal de ce Bidoun 4, et on va commencer par un petit moment de musique. Voilà, l'émission commence fort. Une improvisation de Fadel dont on n'en dira pas plus maintenant. On viendra dessus sur cette musique et ce qu'elle dit, ce qu'elle dit aussi du cinéma de Gilani. Et pour commencer, Gilani, quelque chose d'un peu... ça fait 25 ans que tu fais des films, un peu plus, un peu moins, à peu près.
Si je compte mes courts-métrages, le premier court-métrage, je l'ai fait en... 92.
D'accord. Combien, 92, ça fait Nader.
Pas fort en maths.
Pas fort en maths, ça fait, oui, ça fait pas loin de ça, 25 ans. Voilà, ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour commencer un peu de façon large sur ton rapport au cinéma et comment il s'est un peu. Voilà.
Le rapport au cinéma, enfin. J'étais plus facile, je répondais plus facilement à cette question avant, quand j'étais plus jeune, parce que j'étais plus proche des débuts. Maintenant, c'est tellement le cinéma est dans mon quotidien que j'arrive plus à avoir. J'ai du mal à avoir des distances, quoi. Mais bon, ça a commencé, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 14 ans à décider de faire du cinéma. Et. Voilà le cinéma pour moi, parce que c'est l'endroit, comme le roman, mais moi j'écris très mal, donc je suis dyslexique, donc c'est un truc que je ne sais pas faire. Et le cinéma était pour moi comme un moyen de cette possibilité de s'exprimer sans avoir de verbe, sans avoir de grammaire, sans avoir cette facilité pour qu'il y ait des gens qui écrivent. Mais la fiction, le cinéma pour moi, c'est beaucoup la fiction. Et pas le récit, la fiction dans le sens littéraire du terme, pas la chronologie, pas la fiction dans le sens liberté, dans le sens transgression, dans le sens voilà, rechercher les limites dans ce sens-là, quoi. Donc le cinéma pour moi c'est ça, c'est le lieu où je peux m'exprimer.
C'est le domaine d'une expérience.
Oui, forcément. Du moment où je m'exprime, ça veut dire que c'est une expérience, ça veut dire que toute chose qu'on fait dans la vie ou est une expérience, ou sinon ce n'est pas... Dans la création, s'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de création pour moi.
D'accord. Hier, juste avant, j'ai regardé un de tes films, La tendresse du loup, et il y a une intensité, voire une violence, et ça m'a donné comme envie de poser une question, je sais pas comment tu pourrais répondre, mais comment sur la question de la morale pour toi quand tu fais des films?
Ah, la morale, la seule morale auquel je me réfère, c'est la mienne. Ça veut dire mes limites à moi. En dehors de mes limites, je n'ai pas d'autre morale qui m'est importante. Je pense que ça ne serait pas possible autrement. Je veux dire, si ma morale dépend de la morale de l'endroit où je vis ou de l'époque où je vis, ça serait catastrophique, quoi. Donc ma morale, c'est la mienne. Ça veut dire que j'ai des limites à moi, humaines, sur lesquelles je n'arrive pas à transgresser, qui mènent ma vie. Et c'est celle-là qui me guide dans les films, dans la manière que j'écris, dans tout ça. La morale, pour moi, c'est au fait, ça tient sur deux, trois principes très simples. Ça veut dire respecter l'humanité des personnages que je raconte, les aimer, sinon je ne les raconte pas. Voilà, c'est tout. Le reste, ça n'a pas... En fait, je pensais qu'il y avait plus de lois que ça, mais je n'en ai pas. Juste aimer les gens et que je filme et les respecter, enfin, et les aimer, donc forcément les respecter.
Et donc sur la question de choquer,
moi, c'est pas moi qui décide si je choque ou pas, c'est les autres. Et c'est pas un choix pour moi de choquer. Je fais pas de la transgression pour la transgression, pour qu'on dise voilà, j'ai fait un truc, genre une éjaculation sur l'écran, ou je ne sais pas quoi, voilà, parce qu'on n'a plus de limites, donc chacun cherche à surenchérir. Non, les violences, elles sont beaucoup plus facile à faire, et beaucoup plus les violences profondes ou les violences qui font mal, qui sont souvent manifester dans des choses très très simples. Je veux dire, des fois, tu marches dans la rue, il y a un mec qui te regarde et il te dit sale tête ou salarabe ou un truc comme ça. Il m'a pas frappé, cette personne ne compte pas pour moi, je m'en fous de sa gueule. Mais ce moment-là, j'étais peut-être en train de rêver de la fille que je voulais aimer ou de et cette violence me vient à ce moment-là, donc elle me fait très mal parce que je ne m'y attendais pas. La même personne me dirait la même chose, on est dans une manif en train de s'engueuler entre des faf et les autres, ça m'aurait pas fait aussi mal. Donc c'est pas du tout le choc n'est pas dans de montrer un bout du corps ou de c'est comment le montrer et pourquoi le montrer. C'est quelque chose qui très vite est relatif par rapport à ce que la situation en est, quoi. C'est très difficile de répondre à ça, surtout qu'en Tunisie, moi je suis beaucoup considéré comme amoral, en considérant que je suis le pornographe du cinéma tunisien à cause du film Tendresse du loup. J'ai été insulté, accusé de misogynie. La scène du viol, j'ai été, enfin, j'ai tout entendu par rapport à cette scène-là ou par rapport à tout le film. Est-ce que ça veut dire que la morale, et pour moi, dès qu'on me parle de morale, c'est quelque chose qui me braque, parce que ça me renvoie à tous les débats, à toutes les discussions que j'ai eues en Tunisie par rapport à tous ces religieux, tous ces gens qui sont gênés par le propos du film et qui considèrent que on n'a pas le droit de filmer une prostituée, surtout une prostituée qui devient ma personnage principal, surtout qui a tout d'une femme normale, donc quelqu'un qui est capable de se venger, de réagir, qui aime la vie, qui peut vivre, qui est vivante, quoi. Donc la morale, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que je viens d'une société où la morale n'est pas une question qui est réglée. Parce que la morale religieuse, encore très présente, de manière transversale, toute la société ne se réfère qu'à cette morale religieuse. Et donc, du coup, on se fabrique des interdits. Enfin, la morale sert, a servi beaucoup. Les autorités, les pouvoirs, les trucs pour empêcher ou pour ne pas donner le droit à certains films d'être montrés ou d'être vus ou d'être faits ou écrits ou peints ou un truc comme ça. En Tunisie, après la Révolution, on a voulu condamner des artistes peintres parce qu'ils ont filmé des choses qui pour eux transgressent la religion parce qu'ils ont montré de la bière ou parce qu'ils ont montré une femme nue, parce que je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est une question et qui est très compliquée et on ne peut pas en parler comme on en parle en France, on ne peut pas en discuter comme on discute en France, on ne peut pas avoir. On dirait qu'en Tunisie, on n'a pas le droit d'avoir son propre avis, sa propre morale. La morale est partagée et elle est presque d'État. Ce que, évidemment, les autorités précédentes ont bien favorisé, parce qu'il y avait la morale politique sur laquelle on était la chape de plomb qu'il y avait avant, et qui utilisait la morale religieuse comme référence, comme justification de tous les actes, tous les trucs. Par exemple, tout le mouvement de gauche a été massacré en Tunisie dans les années 70. Bourguiba a sorti le Coran, alors que lui, il est laïque et athée. En disant, voilà, ça c'est des. Nos jeunes sont en train de devenir athées, c'est des kofars, il ne faut pas les arrêter, il faut pas laisser vos enfants partir là-dedans. Et il a détourné toute la société contre ce mouvement de jeunes qui émergeait dans les années 70 au niveau des universités. Donc la morale, c'est quelque chose qui. Ici, on peut en parler de manière plus détachée ou plus. On peut être individuel, on peut plus facilement en parler. Quand il s'agit surtout de création, des choses comme ça, en Tunisie, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est très compliqué de faire des films aussi, sachant que la morale est forcément qu'elle intervient inconsciemment ou consciemment sur sur les limites que je me pose. Mais voilà, c'est une question qui n'a pas de. Moi-même, je ne sais pas. Chaque film
Ouais.
m'impose une situation à laquelle je dois réagir.
D'accord, ok. La question de la morale. Alors les Nader et Fadel, est-ce que vous auriez quelque chose à dire pour embêter Gilani?
Moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est comment, dans quel contexte j'ai rencontré aussi Gilani. C'était à l'université. On découvrait un peu encore le cinéma et il débarque avec sa, avec une caméra et une petite même caméra GoPro dont on pourra en parler après et nous disait qu'on pouvait faire des films avec ça, quoi. Donc, ça a un peu participé à ce qu'on fait aujourd'hui. Et aussi par rapport à cette question de morale aussi, on est même dans le même sens, quoi. C'est-à-dire, l'idée doit travailler le film et après ce qui va tourner autour de cette idée-là, ben, ça sera l'énergie du film qui l'a attiré ou repoussé. Mais voilà. Et c'était aussi dans un atelier de direction d'acteurs. Où on parlait autour de comment parler à un acteur ou comment essayer d'aller vers lui, comment le construire, des échanges qui pouvaient donner la possibilité à son acteur de donner quelque chose, de sortir quelque chose à ce moment-là.
D'accord. Donc t'as un peu appris le cinéma, entre autres.
Oui, au
Tu
début, ouais.
connaissais ces films aussi
Et en découvrant après, par la suite, ces films. La tendresse du loup pour revenir, quand le film est sorti, je ne sais pas, j'étais jeune, mais on a acheté ce film pour regarder, parce qu'on a entendu parler de la scène du viol, et tout le monde en achetait ça dans les DVD, c'était un truc qui passait
Pirate alors?
pirate, et ça tournait dans des circuits de ce type, et on le regardait gratuitement à la maison, mais aussi parce qu'on avait entendu parler de cette scène qu'on voulait regarder finalement. Donc c'est ça dont je parlais tout à l'heure, les choses qui vont être attirées. Nous, on était vraiment peut-être attirés par cette séquence. On voulait la voir sur écran, quoi.
D'accord.
Et avec mes amis, quand on se réunissait, on parlait de cette séquence-là. Il y en a qui que ça choquait, il y en a que ça excitait, il y en a qui l'acceptaient aussi. Voilà, c'est-à-dire, on a commencé à ouvrir, on a commencé à découvrir des choses parce qu'ils n'avaient pas de morale et qu'ils avaient sa propre morale,
Ouais.
quoi. Et heureusement.
Et toi, Fadel? C'est quoi tes questions d'abord? Ah, c'est plus ou moins des questions
Sur la morale.
sur la morale. La question de la morale.
Je peux dire autre chose sur la morale,
Oui?
par rapport à la scène de viol. En fait, la morale, pour moi, elle se situe dans la forme. Elle est vraiment dans la manière de faire. La transgression est beaucoup plus importante quand elle est dans la forme. D'ailleurs, on s'en rend compte très vite après quand on fait le film. Par exemple, par rapport à la scène du viol. La scène du viol, habituellement, dans le cinéma arabe, la scène du viol, c'est une scène ellipsée. Ça veut dire qu'on voit la fille qui va être agressée, on voit l'agresseur. Dès qu'il s'approche, on coupe et on voit la fille qui pleure sous la douche. Donc ça, c'est le code habituel. Tu verras toutes les séries télévisées, tous les films arabes, c'est comme ça que ça se passe. Alors on ne sait plus si le viol, si la fille pleure parce que elle a été violée ou si la douche était trop chaude. On voit la fumée, tout ça, et la fille qui pleure aux larmes sous la douche. Et pour moi, c'est ça qui a été le plus compliqué pour les autres, pour ceux qui n'ont pas supporté ce que j'ai fait, que ce soit ici ou là-bas. C'est au fait, c'est que de décider de ne pas ellipser et de montrer réellement l'acte du viol, quitte à ne pas montrer avant ou après, mais au fait inverser la situation. Et de dire que le viol n'est pas un acte qui peut être ellipsé, parce que c'est dangereux d'ellipser le viol. Ça veut dire que si tu ellipses le viol, c'est là le sommet pour moi de la misogynie. Ça veut dire que pour toi, le viol n'est pas une violence nécessaire, suffisante ou importante pour que, qu'est-ce que ça veut dire quand tu as un personnage dans le cinéma et tu vas le casser par un viol? Si le moment où tu le casses par le viol, tu le filmes pas, pourquoi tu t'empêches de cette force-là? Simplement parce que tu n'as pas envie de raconter que le viol est une description d'une personne. C'est la négation de l'autre. Parce que tu ne l'acceptes pas, toi, homme, cinéaste, arabe. Tu vois?
D'accord.
Tu le considères comme quelque chose grave, mais pas à ce point. Donc, quand tu le filmes en ellipsant, tu vas dans ce sens-là. Ça veut dire que le viol, ouais, mais elle n'avait pas à mettre une mini-jupe, elle n'avait pas à sortir le soir dans le quartier avec une robe légère, elle n'avait pas à être là à ce moment-là, alors qu'eux, ils étaient là en train de boire de la bière. La rue appartient à tout le monde. Donc, si j'avais ellipsé, la prostituée resterait condamnée du début, puisque c'est un personnage. Et si j'ellipse, elle resterait condamnée. Mais si je n'ellipse pas, la prostituée devient un personnage comme les autres. Donc c'est là où la violence de propos du film a vraiment beaucoup surpris, choqué, que ce soit des gens qui ont cette habitude morale ou les Occidentaux qui aiment le cinéma arabe, comme ça, qui est un peu chaste et où les corps ne se touchent pas, où on est tous les enfants sont les produits du viol, tous les hommes martyrisent leurs femmes, enfin, et donc on voit rien, on cache tout, c'est des sociétés secrètes, c'est très oriental, c'est magnifique, donc on n'a pas envie de voir, on a envie de voir, d'être en pitié avec ces femmes ou ces hommes parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils souffrent, et voir le paysage qui est magnifique et les lieux, et puis cette société du secret qui murmure tout, mais qui a l'air tout paraît cohérent. Et moi, je viens et je montre carrément un viol comme on le filmerait n'importe où, que ce soit à Paris, à Marseille ou à New York ou un truc comme ça. C'est une femme qui est détruite par trois hommes.
Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est intéressant
Et
de comment.
à ce moment-là, mettre ça au cinéma, c'était très important aussi. Donc,
Ouais.
de le voir, peut-être aujourd'hui, ça ne ferait pas le même effet.
Ah non, ça ferait le même effet.
Peut-être que ça a changé, ça a pas changé, ça a pas beaucoup changé.
Je crois pas sur ce point-là.
Parce que des scènes de viol, on en voit beaucoup sur Internet et c'est-à-dire aujourd'hui, on en trouve partout. On pourrait voir une scène de viol, on pourrait trouver ça sur Internet dans le porno ou quelque chose comme ça. Mais quand j'avais vu le film, on n'avait pas la possibilité de voir ce genre de choses ou
Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus.
Peut-être pour les moins jeunes, c'est peut-être moins choquant, mais à ce moment-là, c'était important aussi de le montrer. Ça a participé.
Ah, je remets la micro à Pavel. Je lui ai coupé.
Non, non, pas du tout. Non, non. Fadel, musicien. Dans la musique, la question de la morale, elle. C'est voir, surtout, la morale, c'est la question du voir, ce qu'on vient d'évoquer. Je pense que c'est une question piège.
Bah disons, j'ai déjà vu le film avant que je fasse connaissance à Gilène. C'est la deuxième scène que je l'ai vue par un film tunisien. La première, c'était avec Rihsoud. Nouri Bouzid, quand elle a montré un peu le.
Oui, mais on voit pas le gars.
On voit pas, mais ouais,
L'ellipse.
on voit une souffrance quoi,
L'ellipse,
qui a
on voit le
touché
garçon,
beaucoup,
on
tout
pense
ça.
qu'il a été violé.
Ouais. Et la deuxième, c'est. Quand j'ai vu le film. Histoire du moral, j'ai vu les filles, elle était en train de pleurer pour sa robe, en fait, quand pas pour le viol.
La robe déchirée.
Oui. Et après, elle a pris sa vengeance. C'est quelque chose que, en Tunisie, existe. Mais ce n'est pas avoué parce que c'est inaccessible.
Ouais,
Donc le film, il a réveillé des choses un peu qui dérange vraiment. Ouais. C'est loin de l'histoire du viol, dans le sens, c'est indirect, ça n'est pas ça. Est-ce qu'ils n'ont pas compris?
Oui, ça dérange, ça fait une violence.
C'est une morale. Ouais. Quoi, une morale.
Mais ce qui fait que moi, ça me, en y pensant, je me dis que ton cinéma, il est vachement inscrit dans quelque chose qui est, ouais, qui est le réel, où la réalité, il part uniquement de là. Parce que moi, la première fois que j'ai vu tes films, et je les connaissais pas, et je te connaissais pas. Et c'était une des premières fois où j'ai vu des films qui m'ont évoqué un moment important que j'ai eu du cinéma, quand j'ai découvert le cinéma, qui était la période du néo-réalisme italien, quoi. Et j'ai trouvé quelque chose comme ça que j'avais jamais dans les cinéastes contemporains ou modernes que je connaissais, que j'avais jamais vu, quoi. Et je me disais qu'il y a...
Bah, le néo-réalisme, c'était mon biberon. Moi. L'anecdote, c'est que la Tunisie de Bourguiba, après l'indépendance, dans les années 60, vers les fins 60, a décidé d'équiper l'administration par des voitures Fiat, moins chères que les Renault ou les Citroën. Donc la France n'était pas contente, donc elle a puni la Tunisie et elle lui a retiré toutes les aides culturelles. Donc on n'avait plus les films français qui venaient dans nos salles. Donc les Italiens ont remplacé la France et du coup moi je voyais tous les films italiens sortis dans l'année dans ma salle, dans ma ville. Donc je voyais tout le cinéma italien. Et j'ai, bah, tu vois, moi je suis né en 62, donc j'ai
commencé
à 10 ans, j'ai commencé 12 ans, ouais, bah, aller au cinéma tout le temps. Donc j'étais en plein, j'ai vu les Fellini, j'ai vu les Marco Ferreri, j'ai vu Rossellini, j'ai vu. En plus il y avait le ciné-club, on avait les aides des culturelles ou un truc comme ça. Donc le cinéma italien, en plus il passait à la télé. On avait plein de films rigolos, Mariage à l'italienne, les trucs qui passaient à la télé, parce qu'ils sont offerts par l'ambassade d'Italie à la télévision tunisienne qui n'avait pas les moyens d'acheter des programmes.
Ah ouais, d'accord.
De temps en temps, quand la France, tu vois. Et donc moi, quand je suis arrivé en France pour étudier le cinéma, j'étais surpris du décalage qu'il y avait entre moi et les autres étudiants, parce que moi je connaissais... tout le cinéma italien, j'exagère, moi je connais pas mal le cinéma italien, le cinéma arabe, parce que je connaissais le cinéma arabe, je connais le cinéma latino-américain, je connais le cinéma de l'Europe de l'Est, le cinéma russe, et par contre tout le cinéma occidental, à part quelques films, je connaissais pas du tout. En fait, j'ai découvert que j'étais absolument inculte dans le cinéma français et dans le cinéma, évidemment à part Godard ou d'autres trucs, mais j'étais vraiment très décalé par rapport... Et par contre, j'étais étonné du manque de culture de mes collègues, parce qu'eux, ils ne connaissaient que le cinéma italien. Ouais. À la limite, le cinéma américain et le cinéma européen, occidental, enfin, à côté, un peu allemand et belge. Et c'est tout.
Ouais.
Et au fait, moi, j'ai profité des mouvements des non-alignés qui existaient, qui étaient une réaction à l'ONU, qui refusait que les États... du tiers-monde siège dans les trucs. Donc ils ont fait une association avec je crois le leader c'était Nero le pakistanais, il y avait l'égyptien l'égyptien le grand le président je parle de Nasser, il y avait Nasser, il y avait Bourguiba, il y avait l'Éthiopie aussi, il y avait l'Amérique latine, il y avait le Chili à l'époque, avant le truc, on voyait le cinéma chilien à l'époque, le bon cinéma chilien, avant l'arrivée de la dictature, 75 de la dictature je crois, ou un truc comme ça.
C'est ça.
Ouais. Et donc on avait des choses comme ça, au JCC par exemple, on avait plein de films qui venaient de toutes ces régions-là. Et donc, c'est des cinémas qui sont de pays pauvres, donc forcément, le réel est fondamental. Je veux dire, le néo-réalisme est venu aussi de l'absence de moyens. Il ne faut pas oublier que les cinéastes italiens sont sortis dans la rue avec leur caméra parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est une jeunesse qui est arrivée prendre le pouvoir sur le cinéma. l'Italie après-guerre complètement ruinée. Et ces cinéastes ont inventé ce cinéma pour cette population. Et ce cinéma s'est préoccupé de choses réelles qui constituaient l'Italie, avec son sud, son nord, le passé fasciste, le passé ouvrier, le syndicalisme est né en Italie, enfin tout ça, quoi. Et donc moi, c'était tout ce cinéma de laquelle je suis nourri était que ça. Même en Amérique latine, en Argentine, des trucs comme ça, c'est des choses qui sortent d'une vérité vécue, enfin de quelque chose de concret. Ce n'est pas un truc idéologique. C'est pas une masturbation intellectuelle comme peut se plaire beaucoup quand on riche, quand on est riche, quand on a plus des problèmes. Important, donc forcément on fonctionne à partir de. On pense au plaisir, on pense aux relations de couple, on pense le rapport à ma place dans le monde, enfin c'est très égocentrique, c'est très refermé sur soi. Donc du coup, le monde extérieur devient enfin, un peu flou, un peu organisé presque à nos vouloirs à nous, quoi, un peu parisien.
Ah, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Et donc, ouais, ça a été ton terreau.
Moi,
Presque comme une
je ne peux
évidence,
pas
quoi.
imaginer autre chose que partir de cette réalité. Moi, d'où va me venir l'aspect intellectuel, moi? Moi, mon père est docker et ma mère est couturière à la maison. Donc, ma mère est illettrée, mon père, à peine, quand il voulait, quand je faisais des mauvaises notes, il m'achetait le journal et il me dit, lis, il n'a jamais ouvert un livre, il n'a jamais lu une page. Donc, tu vois. Donc, j'ai pas un antécédent intellectuel suffisamment important pour dire que j'ai accès à la philo, j'ai accès à des pensées, j'ai accès à trucs comme ça. Moi, c'est l'expérience du corps, c'est l'expérience du rapport à l'autre, c'est l'expérience du manque, ou comment le dépasser, toujours ce manque qui n'arrête pas d'être en manque, et comment à chaque fois on a une énergie pour que ce manque devient. Quand moi j'étais petit, on fabriquait un ballon avec du papier, et on a piqué les bas à nos mères pour mettre le papier, et qu'on le faisait suffisamment bien pour que la balle, même, on finit par rebondir. On jouait des matchs, on jouait la Coupe du Monde. On n'était pas du tout en manque d'un ballon, on n'était pas en manque de distraction. Je pense que l'enfant qui avait l'argent, qui avait le ballon, la tenue, le stade gazonné, les poteaux, l'entraîneur, ne prenait pas son pied comme nous, on le prenait entre trois voitures qui passaient, jouant pieds nus pour ne pas déchirer nos chaussures, et faire des matchs enflammés incroyables.
C'était déjà du cinéma,
Et
quoi.
on était très heureux. Très heureux. On manquait de rien.
Imaginaire.
Donc, au fait, c'est ça, moi,
Un peu comme au cinéma.
c'est ça, ce qui est important, c'est quand tu manques que c'est important. C'est là où tu te dépasses, c'est là où tu dois inventer quelque chose pour que ce manque devienne une liberté. Enfin, il devient un plus. Une liberté, c'est toujours quelque chose qu'on rajoute, sinon ce n'est pas une liberté. Donc, un plus. Ce plus-là vient du manque, parce que le ballon qu'on a fabriqué, les matchs qu'on a faits, les blessures qu'on a au pied, tout ça, mais voilà, on a été dans une fiction extraordinaire. Parce que le gosse qui a le même âge que nous, qui avait des crampons au pied et un ballon en cuir, une tenue et un entraîneur, quand il se met aussi à jouer, il est dans une fiction. Il s'imagine Pelé, il s'imagine un truc. Entre moi et lui, il n'y a pas de différence.
Pour ça que le foot.
Ouais. C'est pour ça que le foot est partagé si bien dans le monde entier.
On a pu le voir il y a 2 jours d'ailleurs. L'Algérie a gagné. Voilà,
Pour la
c'était
mémoire.
pour la mémoire. C'était
D'Afrique des Nations.
la Coupe d'Afrique des Nations, et c'était la folie à Paris et à Marseille. Voilà. Et avant d'attaquer cette deuxième partie d'émission, voilà, puisque le temps passe, sur un peu plus une deuxième période de cinéma de Gianni, on peut dire ça comme ça, dont on nomme Bidoun. Et on est avec Fadel, qui est l'acteur d'un des Bidouns, qui est le dernier. Et avant une petite pause musicale, moi, Fadel,
Je voulais savoir un peu toi par rapport à tout ce que vient de dire Gilani sur son cinéma. Qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire sur toi et ta musique? Comment tu l'habites ou comment elle s'habite, d'où elle vient, comment elle a...
Je suis le mouvement de la musique où elle est. Je suis plus maintenant dans l'improvisation, de rencontres, les hasards. La musique, elle est dans. Je l'ai jouée dans plusieurs espaces, dans le festival, d'une rive à l'autre, de rencontres.
Pourquoi le oud?
C'était mon instrument de longue date.
Alors dis-nous comment t'as appris à jouer au oud. Ça, c'est important.
Ouais, je suis d'accord.
C'était un rêve. Il n'y avait pas le conservatoire. Donc il fallait que j'attende juste. Aller au lycée pour trouver le route. Non, avant, oui, c'était en même temps. Le Dar Thaqafa, club
Centre culturel.
de centre de culture. N'y avait pas que le route, il y a le violon, il y a. Mais avant ça, on se débrouille avec. Comme tu as parlé tout à l'heure du ballon. Donc avec du bout du palmier, donc on peut construire avec du clou et on va chercher les cordes avec tu vois, les freins du vélo. Donc ça sonne, donc avec la corde, et on joue. Je crois que j'ai touché la musique avant la connaissance de tout ce que solfège, tout ça. Voilà, donc le oud. Je dis, c'est moi que je l'ai choisi ou je l'ai tout ça, mais elle était là, donc destinée à ma vie.
Voilà, c'est une belle manière de parler à la musique. Et pourquoi aussi, c'est, je trouve c'est bien que tu dises tout ça, aussi pour les auditeurs, parce que bah, les films de Gianni sont souvent des très fortes rencontres avec ses acteurs. Et je crois que sur le Bidoun 4, ça a été aussi une très forte rencontre entre vous deux, et en vous entendant parler de cinéma et de musique, on se dit que ça va être chouette de pouvoir approfondir tout ça. Et voilà, on va attaquer la deuxième partie. Il y a une petite pause musicale avant d'attaquer la deuxième partie.
Mais je
Fadel?
voulais dire quand même que c'est la première fois où je me trouve dans une aventure, que je l'ai senti positivement. Et je découvre avec Julien Sardi, le réalisateur du. Dunkat, l'univers, l'espace, comment c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est la première fois que je me trouve comme acteur. Et c'est. Sans commentaire, il faut voir le film, peut-être.
Thank you. C'était Fadel à la Oud, le dernier film de Saadi Chinadi Bidoun 4 est traversé de la musique de Fadel. Chinadi, le Bidoun, c'est le quatrième que tu fais. Bidoun, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie ou dans ton cinéma ou il y a quelque chose, c'est des films sans budget, tu persistes à faire des fictions sans budget, et c'est Bidoun qui...
Oui, bah ça, au début, ça a commencé après la Révolution, parce que tout a été chamboulé autour de moi. Enfin, c'était avant, en fait, en 2009. En 2007, j'ai quitté la France, je suis rentré en Tunisie, et c'est là où j'ai commencé à donner des cours à l'université, et j'ai commencé à rencontrer des jeunes, que ce soit mes étudiants ou des jeunes qui, enfin, voilà, qui, avec qui j'ai travaillé sur les autres films, qui étaient là. Et en fait, on a constitué un groupe et on a décidé de faire une année de cinéma, de faire une série de documentaires, une série de des portraits de personnes, et pour finir sur une fiction que j'étais en train d'écrire. Et ça a donné Dans la peau, un film qui n'est pas sorti, malheureusement, personne n'a vu, et qu'on a tourné comme ça, avec une toute petite équipe technique de 7 personnes, je crois, en 13 jours de tournage. Et c'était un road movie, on a tourné toute la Tunisie. Et on l'a tourné aussi sans, avec une fausse autorisation de tournage, sans aucune loi, sans aucune règle. Et ça a été la première expérience violente que je vis avec le cinéma, où je suis jeté, pas du tout comme sur les autres films habituellement, où j'ai une équipe sur laquelle je peux m'appuyer, j'ai des repérages que j'ai déjà faits, j'ai des choses qui sont extrêmement préparées. Là, j'arrive, il faut que j'improvise. J'arrive dans un hôtel, on doit dormir dans cet hôtel. On choisit, quand on rentre dans l'hôtel, on ne l'a pas connu, on ne l'a jamais été, personne n'a été dedans. C'était le moins cher, en fait, on n'a pas d'argent, donc on prenait le moins cher. Et c'est une histoire d'un couple qui va dans un hôtel pour donner un spectacle. Et donc on les suivait. On les suivait, et donc on choisissait, quand on arrivait dans l'hôtel, les chambres qu'on nous a allouées. On choisit la chambre qui correspond le mieux. Et on décide celle-là va jouer dans le film. Et les restes, on se débrouille pour dormir dans les restes. Donc je rentre dans un lieu, je ne sais pas comment il est fabriqué, je ne sais pas où je peux mettre ma caméra, je ne sais pas quel décor il a, la lumière, le son, on n'est rien du tout. Et en 24 heures, il faut que j'aie tourné ma scène, que j'ai donné mon spectacle, parce que le lendemain ou l'après-lendemain, on partait sur une autre ville pour pouvoir faire tout le tour, donc des cabarets de toute la Tunisie. Donc ça a été déjà ça, une expérience très 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 passionnante à vivre, d'une violence extrême. J'ai été surpris, je me suis surpris moi-même, comment je peux très vite réagir, comment réorganiser des principes de filmage, qu'est-ce que... Tout ça a été extrêmement passionnant. Après le montage, ça a été vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que ça m'a permis de prendre vraiment totalement la liberté de toute du poids du cinéma. Enfin, je veux dire, moi j'ai commencé tard à faire des films parce que je pensais que je ne pouvais pas le faire avant. Et je me dis que c'est dommage, alors que on pourrait commencer tellement plus tôt. Maintenant, on commence parce que la technologie le permet, mais à l'époque c'était plus difficile. Mais même aujourd'hui, je vois que les gens ne profitent pas assez des possibilités qu'ils ont pour s'exprimer et pour se libérer des carcans habituels. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des films avec des financements, mais ça veut dire que quand j'en ai pas, et quand j'ai pas envie d'en avoir, ou quand le besoin se fait sentir, ou parce que, ou quand on veut plus me donner d'argent, je sais, moi, que je continuerai tant que j'aurai l'envie de faire des films, et je pourrai continuer à le faire. Et je pense que si nous, nous voulons nous considérer cinéastes en tant qu'artistes, ça veut dire que si on n'a pas cette liberté de décider quand on commet nos œuvres, c'est quand même, on nous prend quand même pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de liberté. Parce que on ne tourne pas quand on n'est pas en bonne disposition, on ne tourne pas quand on n'a pas suffisamment rêvé son film, on ne tourne pas quand on n'a pas envie de tourner, on tourne quand on a envie de tourner, on ne tourne pas quand on peut tourner. Tu vois? Quand l'argent est trouvé, on ne reste pas 9 ans pour attendre à faire un film, on ne reste pas. Tu vois, c'est ça qui me paraît, c'est ça qui m'a permis cette expérience de Dans la peau, c'est ça qui m'a permis de me sentir capable après de continuer à faire des films, même si on refuse mes films, même si on ne veut pas me donner d'argent, ou même si on. Voilà, parce que moi j'ai envie. C'est hyper important pour moi, comme pour le reste de ma vie. Enfin, je veux dire, quand on a envie de quelque chose, c'est le moindre des choses, c'est de la faire.
Et ce alors ce titre Bidoun.
Bidoun, ça veut dire, on peut dire bâtard, pareil, bidoun, quelque chose insignifiant, quelque chose qui n'a pas forcément une race, une origine, un truc. C'est quelque chose qui vient d'un désir.
Sur le bidoun, Neder, toi, tu te racontes quoi le mot bidoun tu...
Bidoun moyen, bidoun préparation, bidoun à l'aventure, et tant mieux.
Neder, qui était l'assistant de Gilani sur le bidoun 4.
Donc, quand je dis bidoun préparation, c'est dans la préparation dans la forme classique, peut-être, où ça prend. Un temps fou où chacun a une tâche bien précise. Dans celle-ci, on se retrouve un peu à faire toujours des tâches précises, mais dans plusieurs compartiments, dans la décoration, dans les accessoires. Et donc, on travaille un peu d'une autre façon aussi, le cinéma. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est bidoun l'organisation habituelle ou qu'on pourrait peut-être imposer comme... la seule peut-être façon de faire, non? C'est-à-dire toucher à la caméra, toucher à tout sur un tournage, c'est très très formateur, et c'est une c'est aussi une façon de faire et de gérer un tournage aussi.
C'est clair.
Voilà, c'était ça l'expérience.
Moi, je sais que j'étais assistant avec Nader. On a eu des bons pétages de plomb, mais c'était très bon. Moi, c'était la première fois que je découvrais ça, une sorte de violence belle, une sorte de dépassement où on est toujours en danger et qu'on doit toujours essayer de trouver une solution et pas de... Voilà, ça doit passer, on doit trouver, point barre, comme ça. Et que ça crée une violence, quoi, que moi, j'avais jamais découvert, où les soirs, j'avais de la colère contre moi, contre le monde, un truc, une boule, quoi, mais ouais, c'est comme tu disais au départ, c'est de l'expérience, quoi. Et toi, Fadet, tu disais tout à l'heure que tu n'avais jamais joué dans un film, et donc là, tu te retrouves à
une
rencontrer...
Une fois, très, très légère. Ça date de 20 ans maintenant.
Ah oui, donc c'était très, très légère. Mais là, tu rencontres Gilani pour jouer Amadi dans le film Bidoun 4. Et, alors, cette rencontre... On veut en savoir un peu.
C'est difficile d'exprimer parce qu'elle est devant moi.
Ouais, mais c'est ça qui est bien.
Je le prends de quel côté?
Du côté, tu veux dire Amadi ou...
C'est bien cette relation que tu as eue avec Amadi.
Je n'ai jamais pensé que je vais avoir un rôle principal dans un film. Mais avant l'histoire du rôle principal ou secondaire, tout ça, je n'ai pas pensé à ça après. J'étais courant que j'ai eu le rôle principal. Mais l'essentiel, d'abord, c'est le début de l'aventure, le début du rencontre. Je dis à Gilène et moi, avec... ce que j'ai vécu, l'histoire du film, je peux le considérer comme un court métrage de quelque chose où ça provoque beaucoup de... ça ouvre beaucoup de portes et ça me parle. Et du coup, pour moi, bon, lui, il a essayé de m'aider par rapport à ça. Pour moi, n'étais pas en train de jouer un rôle. J'ai essayé après vraiment. J'étais presque Ramadi en fait. Quand c'est le double du. Du quelque chose que beaucoup de musiciens en France, ça fait 28 ans que je suis là, plus qu'un quart de siècle.
Ouais, c'est ce qui fait que tu as eu un rapport très, très proche avec le rôle que tu avais, quoi. Très, très proche. Mais comme d'ailleurs, il y a un rôle, il y a quelque chose de très proche aussi entre vous deux aussi.
Oui, je suis convaincu. Donc pour Julien, il faut faut prendre le temps, tu vois, parce que dans 10 jours, moi, j'ai pas imaginé que je vais avoir une telle force pour être, pour essayer de ne pas décevoir celui qui compte sur moi. Parce que c'est l'un des meilleures sensations que je l'ai eu de ma vie.
Attention.
Et après, j'ai hâte de voir le film.
Mais qu'est-ce qui était dur? Si on, alors on n'entre pas cette porte-là dans ce que ça.
Ce qui était du dur, que Gilène, il était trop gentil dans le tournage avec moi.
Il y a un mot que tu dis en arabe toujours, une phrase, c'est quoi? Que tu lui as demandé une fois au début du tournage. Tu as dit kon qasian
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Sois dur sans pitié. Parce que le premier. En fait, quand j'avais des curiosités par rapport à comment ça se passe. Et il m'a fait comprendre que dans un tournage, il est hors de question qu'il y a une affaire personnelle avec un individu. Tout le monde égal dans le travail. Donc, si je ne suis pas d'accord pour ça, donc je peux l'exprimer avec plusieurs formes ou pour que on aura le feu rouge de cette image-là. Genre au début quand on lui dit tu rigoles. Donc c'est l'intérieur, c'est et comment je peux j'étais pas prêt pour vraiment parler d'un film de cinéma, franchement, mais faut le voir d'abord.
Le voir. Et toi, Gilani, ta rencontre, tu
Ah,
recherches.
c'était. Bah, écoute, je cherchais quelqu'un qui jouait du luth pour le rôle principal, évidemment, parce que je ne voulais pas prendre un acteur qui ne saurait pas jouer du luth, parce que pour moi, la musique est aussi importante que le jeu dans ce film. Comme le personnage est musicien, si je ne convainc pas les gens qui vont voir le film de la puissance de sa musique, mon personnage n'aurait aucun sens. Donc je cherchais quelqu'un qui me donne la bonne musique et en même temps qui soit capable de jouer. Et je crois que c'est la chance de ce film, c'est que j'ai rencontré Fadl. Et depuis que j'ai rencontré Fadl, je n'ai plus rencontré personne d'autre. En fait, mon seul casting, c'était voir Fadl. Je n'ai pas vu d'autres personnes, ni d'autres acteurs. Et on a continué un peu à échanger à distance quand je revenais. Et voilà, et plus je le voyais, plus je me dis, quelle chance. Et après, j'ai écouté sa musique et c'était bouleversant. Et voilà, et à chaque fois, c'est comme ça, c'est la surprise avec lui. Même pendant le tournage, tous les jours, il me surprenait. Ça m'énervait beaucoup. Parce que je sais pas quoi faire avec ça. Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai hâte d'être dans le montage, parce que vraiment, je sais qu'il y a un truc, vraiment, que lui a fait sans mon accord. Malgré moi.
Ah ouais, là c'est.
Et c'est ça le bonheur de ce genre de film. Parce qu'on est sur la durée. J'ai pas le temps, j'ai le temps de revenir en arrière. J'ai le temps de prendre le temps de dire non, il faut que tu me la fasses exactement comme moi je veux. Moi, je sais que j'ai d'autres scènes à tourner le même jour et que le jour où je ne fais pas une scène, c'est sûr que peut-être que je ne la tournerai jamais. Donc du coup, il y a une urgence, il y a une vitesse avec laquelle je vais. Je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à l'intériorité du personnage qui joue. Parce que je sais que je l'ai mis en condition et qu'il ne peut pas être plus dans le personnage qu'il ne l'était. Et je sais qu'il ne fera pas le comédien. C'est ce que je cherche de toutes les manières. Et voilà. Et donc, du coup, je laissais passer. Donc même des fois, c'est pas tout à fait, c'est à côté ou un truc comme ça, et je me dis après, mais non, c'est cohérent. Quand la dernière fois, il m'a fait ça aussi. Avec ça, peut-être il y a une cohérence. Ce qui est important, c'est la cohérence. Parce que c'est lui qui exprimait ça, quoi, intérieurement. Donc évidemment, les fois où il joue parce qu'il est fatigué ou usé, ou il ne trouve pas, je le rappelle à l'ordre, mais voilà, après, c'est assez passionnant. Mais dans tous les bidounes, j'ai ça. Dans les trois langues où il y a des personnages, dans les trois, j'étais surpris par des propositions, une générosité que m'a donné les acteurs dans si peu de temps, alors que j'avais l'impression des fois pendant le tournage qu'ils n'étaient pas sur le coup, parce que tout le monde court, tout le monde personne ne dort, tout ça, et j'ai des performances d'acteurs qui sont assez incroyables dans mes trois bidounes. Alors que normalement, logiquement, ce n'est pas possible.
Oui, c'est
parce qu'on n'a pas le temps de fouiller, de chercher. Mais il y a quelque chose comme ça, de spontané qui sort, quelque chose qui est décalé par rapport à ce qu'on fait d'habitude, qui donne une sincérité absolue au personnage. Et du coup, il n'y a pas plus fort. Enfin, je veux dire, si on joue, c'est pour trouver cette sincérité.
Ouais. Tout à fait, quoi. Et toi, Bader, qui est au milieu de tout ça, de cette rencontre, ou de cette relation, comment toi tu l'as habité, traversé?
J'ai découvert sur ce tournage, le premier jour du tournage. Il y a eu un contact peut-être un ou deux jours avec mail où on s'est échangé ce genre de choses, mais j'ai découvert la personne qu'il était le jour du tournage, c'est-à-dire lors de la fête de la musique où on se baladait dans la rue avec ce personnage. Et petit à petit, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose en lui qui va dégager pour le film une certaine générosité et surtout une certaine complicité entre les deux. Il pouvait se crier dessus, il pouvait s'engueuler, il pouvait faire tout ce genre de choses. Ce n'était pas méchant finalement. On savait que ça allait dans le film et toute cette énergie-là, elle était pour le film. Et c'est ça qui a permis aussi à toute l'équipe de s'accrocher autour de cette force qu'il y avait, de l'énergie qu'il nous transmettait sur le tournage. Il donnait beaucoup de lui-même. Il portait avec nous le décor, il portait avec nous certaines choses. Il avait son hood, mais il traînait aussi la valise. Il traînait aussi des choses qui étaient aussi une partie intégrante du décor et des accessoires de jeu et du matériel du film. Et voilà, et ça a duré 10 jours et ça pouvait être comme si on était dans une sorte de boucle dans le temps. Et limite, on n'a plus envie d'en sortir parfois parce que on trouve un certain plaisir malgré la fatigue, malgré tout ce qui se passe sur un plateau. Ça n'a plus aucun sens et on rentre dans autre chose. On rentre dans autre chose que je n'ai pas connue. Et je suis vraiment très content d'avoir fait la connaissance des deux, quoi, dans cette partie.
Et donc d'un côté, tu étais l'acteur principal du film, et c'était à la fois un jeu qui était très proche de toi, et aussi parce que tu y faisais de la musique, quoi. Et en plus d'être acteur, de faire de la musique dans un film, ça, pour toi, ça a déplacé, qu'est-ce que ça a créé comme mouvement? La question de la musique aussi, de la jouer dans ce film. Moi, je me souviens du moment, un moment très fort, et pourtant, je ne voyais pas, quoi. C'est l'une des seules scènes où je n'ai pas pu y assister. C'est celle où on est dans le métro et tu jouais à droite, quoi. Et cette scène, je ne l'ai pas vue, mais je ne l'ai que entendue, quoi.
J'étais dans le métro Volcar. C'était une maman très très touchante. Des mamans. Et c'est l'histoire d'un musicien. Donc quoi, tout est lié. Son instrument, ça, la musique, le... C'était dans le scène du Youssef. J'étais en train de chercher qu'est-ce que je vais jouer, quoi, donc... Après, j'ai arrêté de chercher. J'ai laissé les choses venir. Mais c'était une bonne sensation. Parce que tu es dans un film, tu es en train de jouer un rôle, et après, il y a des moments où je peux être déconnecté, là, parce que j'oublie que je suis en train de manger un ajj pour le film, quoi. Parce que c'est tellement... voilà, tu oublies le caméra et tu vis le moment... dis, j'aimerais bien rester avec Ali, quoi. Vraiment, ça fait rêver. Voilà. Donc, plus que le film, il y a des moments où je dis, pourquoi les réalisateurs, ils sont fâchés, ils disent, on est bien là. C'est cool, vraiment. C'est le meilleur moment. Il y a Nadir, il y a tout. C'est toute une... En fait, quand moi, je rêvais de... Si j'avais le moyen d'avoir une autre équipe qui filme Gélène, comment toute l'équipe, c'est extraordinaire. Du quelqu'un un peu vraiment comme moi, que j'ai toujours rêvé d'avoir un tournage, d'ailleurs, c'est pas entrer jouer dans un film. J'ai vécu un chantier où il y a quelque chose du. Allez, tout le monde bosse pour vraiment faire une finition, tout ça, jusqu'à le dernier jour où on entend Hamad, la fin de Hamad. J'ai ma tête qui est complètement rasée.
Et oui, c'est vrai, ça c'était aussi une expérience intense.
C'est des moments... Quand je vous vois en train de filmer le réalisateur, tout ce moment-là, dans la salle de bain, dans... Je dis... Sans trop sérieux.
C'est vrai ça, hein.
On joue, mais... David, ça va?
Ben oui, mais parce que...
C'est quoi? C'est une aide de tout le monde.
L'angoisse d'un réalisateur, c'est... C'est compliqué à gérer en si peu de temps, donc forcément elle est concentrée aussi. Donc il faut que je la ressorte. Donc je sais quand avec Fadl, je sais les limites. Donc à partir de là, je sais que je peux le pousser à bout et qu'il sait que je ne le fais que pour l'intérêt du film. Donc c'était réglé. Mais évidemment, c'est très violent de faire un film en 10 jours, c'est très violent, c'est très passionnant, après je le regrette pas, hein. Ça serait à refaire, je le referais 100 000 fois, j'ai pas de problème, mais c'est quand même assez violent, hein. ça met une tension telle que voilà, que l'angoisse est à la limite d'être néfaste, quoi. On est à la limite.
Tu joues avec le feu.
Ouais. Mais parce que je peux pas être autrement.
Ouais. Faut être.
Que cette angoisse aussi me permet de ne pas tomber, de tenir, d'être toujours debout, de pas à un moment donné dire ah non, je fais une pause, là je vois plus rien. Voilà, d'être toujours capable de répondre aux questions qu'on me pose.
Oui, c'est sacrément intense, c'est clair, quoi.
Ouais,
c'est 10 jours, ouais. C'est comme tu le disais très bien tout à l'heure, cette sorte de... T'es dans une boucle, t'y es bien, t'as envie d'y rester, tu commences à t'y installer, quoi. Et même si c'est violent, ouais, tu commences à t'y installer et tu commences à y être bien, quoi. C'est très perturbant, mais je crois que dans tous tes films, il y a quelque chose de ça qui est, en tout cas.
Oui, enfin, je pense, et puis j'ai une situation qui devient de plus en plus un peu peut-être difficile à gérer, je sais pas, mais Mais c'est que de plus en plus, j'ai pas envie d'être celui qui sait d'avance ce qu'il veut faire. Je veux me laisser cette possibilité toujours dans mes prochains films, peu importe la situation. Et je sais que j'aurai beaucoup de difficultés avec les techniciens du cinéma à cause de ça. Que je ne veux pas être en tournage pour appliquer un storyboard. Ça, c'est impossible. Je l'ai fait avant. Je ne veux plus le faire, je trouve que c'est tellement plus... Le temps de tournage n'est pas un temps pour moi d'illustration d'un scénario. Le temps de tournage, c'est le temps de la création, comme dans l'écriture, comme dans le montage. C'est aussi un temps où on peut revenir en arrière, c'est un temps où on doit douter, c'est un temps, c'est aussi un temps d'écriture. Et ça, j'ai appris maintenant à le faire, et je ne voudrais jamais je ne pourrais accepter de ne plus le faire.
C'est précieux, quoi.
Ah oui, c'est très important pour moi. Donc, c'était un peu dans Arsedip, j'ai commencé avec Tendresse du loup à tester ça, et ça continue, et je pense que ça va aller encore de plus en plus fort, quoi. En plus, si j'ai les moyens, je vais essayer d'aller encore plus loin, dans les limites que peut-être quand je n'ai que 10 jours de tournage et pas les moyens de me déplacer d'un endroit à l'autre, que de ne pas changer d'avis fondamentalement, un truc comme ça, c'est très compliqué. Enfin, et là, je vais pouvoir. Mais jamais,
jamais dans une zone de confort.
Je ne reviendrai dans une zone de précision.
Ouais. Et de confort.
Oui, de confort, de précision, de quelque chose de... Voilà, de prévu. Et on est là pour l'exécuter.
Ben, merci.
Ben de rien.
On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que une dernière question?
Moi, j'ai juste hâte de voir le film. Quoi.
Voilà. On verra.
Moi aussi. Hein.
On verra. Est-ce qu'il y a des. Donc, 4, 6, on ne sait pas. C'est encore. C'est le domaine de l'incertain.
Là, ça dépend des possibilités et de ce qui va. L'intérêt que le film. Va susciter. Donc ça peut aller vite comme très lentement.
D'accord. Il y a cet aléa-là, et malgré ça, ou au-delà de ça, tu continues, tu vas être sur un autre film.
Ben je continue, oui. Je lance là le montage, je pense que je l'aurai terminé d'ici septembre. Et après, le reste, je le ferai quand je pourrai.
D'accord. D'accord, ben oui, on a hâte de voir ce film. Merci à tout le monde, merci aux auditeurs. Merci. De Radio Galère, donc c'est sur 88.9 et c'est en podcast sur dérive.tv et on se termine par un petit dernier morceau de musique avec Fadel et son et ses Oud. Merci Fadel, bonsoir.